nous nous retrouvons pour une série
consacrée. Nous attachons à quatre faits marquants de votre vie.
Passer une demi-heure ensemble pour.
Focus braque aujourd'hui son projecteur.
Focus. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Hélène Renard.
Madame, Monsieur, bonjour. Nous avons l'honneur et le plaisir d'accueillir aujourd'hui dans le studio de Canal Académie son éminence le cardinal Roger Etchegaray, membre de l'Académie des sciences morales et politiques, qui réside habituellement à Rome, mais qui pour remplir sa mission pastorale se fait grand voyageur de par le monde entier, qui est aujourd'hui de passage à Paris et nous sommes donc très sensibles. Éminence, autant que vous voulez bien nous consacrer, je vous salue, bonjour.
Merci beaucoup, je suis très heureux d'être avec vous.
Vous avez accompagné le pape Benoît XVI, dont je rappellerai simplement qu'il était, en tant que cardinal Ratzinger, membre associé étranger de l'Académie des sciences morales et politiques. Vous l'accompagnez en Turquie dans son voyage apostolique du 28 novembre au 1er décembre 2006. Le pape lui-même a dressé le bilan de ce voyage lors de son audience générale du 6 décembre, en expliquant que c'était un voyage qui s'est déroulé en trois cercles, en structure concentrique. Est-ce que vous pouvez nous expliquer cela ?
Oh, c'est très simple. Il ne faut pas oublier d'abord que l'objet premier de cette visite du pape Benoît XVI en Turquie était pour rendre visite au patriarche œcuménique de Constantinople. Donc, dans un esprit œcuménique de dialogue avec les églises orthodoxes, dont le patriarche à Constantinople, Bartholomée, est, comme on dit, le primus inter pares. Mais pour diverses circonstances, hélas, il a dû dépasser d'un an ce voyage-là. Et puis, il y a eu entre-temps ce qu'on a appelé le discours de Ratisbonne, où le pape donc, n'a pas été compris dans sa manière de parler de l'islam. Ce qui fait que ce qu'on pouvait craindre, et le pape le premier, c'est que l'objet premier de la visite donc œcuménique soit omnubilé par le problème des rapports avec l'islam. Heureusement, l'équilibre a été maintenu, grâce aux médias d'ailleurs. On a donné un grand relief à la rencontre du pape avec l'église orthodoxe. Mais ces trois zones concentriques,
oui.
C'est l'expression du pape Paul VI qui est reprise d'ailleurs. C'était pour montrer qu'en pensant à ceux qui sont les plus éloignés, si l'on peut dire, au moins de l'église catholique, les religions non chrétiennes, là il s'agissait de l'islam précisément, puis une onde concentrique plus proche, il s'agissait des églises chrétiennes, orthodoxes, et puis alors après, le noyau au centre même, c'est bien les rapports que le pape a eus, ce qui est aussi tout naturel, avec ses propres fidèles, c'est-à-dire avec les catholiques minoritaires, mais avec lesquels il a pu avoir aussi de bons contacts, soit à Constantinople, soit, on a peut-être pas assez relevé l'importance de sa messe à Éphèse.
Oui, c'est un lieu de pèlerinage presque pour lui.
Un lieu de pèlerinage de la Mère de Dieu. C'était pour moi un des points où le pape s'est comporté presque comme un curé de campagne. Il y avait à peine 200 personnes. Et le pape s'est comporté comme quelqu'un qui était heureux de rencontrer. Là, il pouvait toucher la main de chacun. Parce qu'en général, dans tout ce voyage, pour raison de sécurité, c'est un voyage, comme on dit en Italie, un voyage blindé.
Il n'a pas pu approcher ni être approché,
bien sûr. Donc, ce voyage a été au-delà de toute espérance, parce que le pape a pu faire ce qu'il a voulu faire, sans donc qu'on bascule du pastoral au politique. C'était le risque aussi.
Bien sûr. Alors, au point de vue de ses relations œcuméniques, justement, le pape a confirmé, et je le cite, l'engagement réciproque de poursuivre la route vers la pleine communion entre catholiques et orthodoxes. Mais Éminence, on entend souvent dire que cette route de rapprochement entre catholiques et orthodoxes, elle est non seulement lente, mais elle est difficile.
Elle est longue, très longue. Difficile aussi, bien sûr. Très difficile.
Quels sont les principaux obstacles ?
Il ne faut pas se décourager, les obstacles.
Ils sont dogmatiques ou ils sont historiques ?
Il y a aussi des problèmes dogmatiques, mais des problèmes qui peuvent être surmontés et qu'on arrivera à surmonter. Mais le vrai problème pour moi, c'est une question de mentalité. On ne réalise pas à quel point les églises orthodoxes sont des églises d'Orient, en fait, de mentalité orientale, même si c'est le Proche-Orient. Mais on ne réalise pas à quel point, quand même, la tradition de l'église, comme disait Jean-Paul II, a deux poumons, Orient et Occident. On ne réalise pas à quel point nous, occidentaux, romains, si j'allais dire, nous sommes quand même peu portés à comprendre la belle tradition orientale de ces églises qui ont suivi un autre chemin. mais aussi qui sont des églises chrétiennes, qui portent vraiment aussi l'évangile dans sa pureté.
Oui, qui croient finalement aux dogmes fondamentaux de l'incarnation et de la résurrection, au moins cela, de toute façon.
Plus que ça.
Plus que cela.
Ce sont deux traditions complémentaires. Il est difficile de faire respecter l'aspect complémentaire sans que l'un ne cherche à dominer l'autre.
Et souvent, j'ai remarqué que le pape se positionnait aussi comme évêque de Rome. Et historiquement, ça a beaucoup de poids.
Très important, parce que pour l'écuménisme, de montrer que le pape est avant tout, et c'est d'ailleurs, il se prend toujours comme son prédécesseur, surtout comme évêque de Rome. Et c'est parce qu'il est évêque de Rome qu'en même temps, il se sent successeur de l'apôtre Pierre, qui était dans le collège apostolique, donc celui à qui le pape avait confié, comme on dit, les clés.
Tandis que le patriarche de Constantinople pourrait se sentir successeur d'autres apôtres.
Non. Oui, alors c'est assez intéressant de voir que d'un autre apôtre, qui est le propre frère de Pierre, André.
Qui avait fondé la communauté de Constantinople.
Et le considéré comme le fondateur, vénéré par les orthodoxes, comme le fondateur de l'église de Constantinople. Et chaque année, depuis longtemps, un représentant du patriarche de Constantinople vient à Rome pour la Saint-Pierre, et une délégation du pape, va à Constantinople pour la fête de Saint-André. Et le pape était encore cette année, pour la fête de Saint-André,
qui est le 30 novembre, je crois.
Oui, c'est ça.
Donc il y a pu y avoir une liturgie au moins ensemble autour de la célébration de Saint-André.
Oui.
Ça a été très fort. Alors vous-même, vos impressions ont été d'avoir vécu un gros moment, mais vous en avez vécu bien d'autres dans votre vie.
Oui. Bon, on ne mesure pas encore quelle sera la portée de ce voyage. Peut-être pour moi, ce ne sera pas tant l'amélioration des rapports entre Rome et Constantinople, qui était déjà, si l'on peut dire, au beau fixe. Malgré quelques difficultés, il n'y a pas de très gros problème de friction, si l'on peut dire, entre les deux églises. Mais je pense que ce voyage aura permis surtout aux églises orthodoxes, entre elles, de prendre conscience davantage de leur unité. Vous savez, ce sont des églises autocéphales, autonomes, très marquées par un certain nationalisme religieux, trop peut-être, mais ce que le pape souhaite, c'est qu'il est très discret, il ne peut pas interférer sur la vie des églises orthodoxes, mais je pense que le rôle qu'il joue, comme j'allais dire celui qui fait l'unité de l'église, je pense que la manière dont il a été rendu visite et a été reçu par Bartholomé montre que le pape honore aussi un certain rôle que le patriarche doit pouvoir jouer à l'intérieur des églises orthodoxes.
Oui, mais il a rencontré aussi Mesrob II, c'est-à-dire le patriarche de l'église arménienne apostolique. Église importante en nombre.
À vrai dire, il y a un patriarche arménien à Constantinople, mais le premier patriarche arménien réside en Arménie, à Echmiadzin. C'est une église aussi très complexe, comme cela arrive en Orient. L'église arménienne a trois leaders, si l'on peut dire.
Il faut s'y retrouver dans tout cela.
Pardon ?
Vous avez l'air de vous y retrouver très à l'aise. Oui, vous avez beaucoup étudié toutes ces églises.
Mon expérience, entre autres, aussi m'a porté à connaître par le dedans toutes ces églises non catholiques.
Mais de rites, et même de rites orthodoxes un peu différentes les unes des autres.
Oui.
Ils ne suivent pas les mêmes rites.
Entre une église arménienne et une église orthodoxe, il y a beaucoup de différences.
Oui.
L'église arménienne est plus ancienne que l'église orthodoxe. Mm-hmm. Mais l'église orthodoxe qu'on est actuellement, il ne faut pas oublier que la plupart de ces églises ont été sous le régime communiste, été par conséquent persécutés et vidés souvent de leur substance religieuse.
Et elles sont minoritaires dans certains pays. Oui.
Mais maintenant, heureusement, ces églises repartent. Et on ne peut pas juger des églises qui ont souffert, qui encore cherchent tant bien que mal à retrouver un peu toute leur force apostolique. Et je pense en particulier à l'église de Moscou, mais aussi aux autres églises, je pense à la Roumanie, à la Bulgarie. Ce sont des églises qui ont des traditions extraordinaires de foi. Et moi, j'ai beaucoup de respect pour ces églises-là, malgré aussi leurs limites, bien sûr.
Le pape a voulu considérer la Turquie comme un pont d'amitié et un pont de collaboration fraternelle entre l'Occident et l'Orient. Et c'est pour cela qu'il souhaitait que la Turquie entre dans l'Europe. Quel est votre avis?
Je disais tout à l'heure, Jean-Paul II employait souvent l'expression que l'Église a deux poumons, l'Orient et l'Occident, et il s'agit que ces deux poumons puissent donner à plein. Nous avons, beaucoup à faire, nous occidentaux, pour connaître un peu l'Orient, et réciproquement aussi l'Orient, parce qu'on s'était séparés depuis la fin du premier millénaire. De part et d'autre, le chemin quitta, je disais au début, qui progresse, c'est un chemin long, mais d'abord de meilleures connaissances. Connaissances dans notre histoire et connaissances aussi dans notre présent, avec des mentalités différentes. Le respect de l'autre, quelle que soit son histoire, quelle que soit son éducation, sa tradition, est une chose nécessaire pour le vrai dialogue.
C'est sur ces mots, Éminence, que nous allons vous remercier d'avoir consacré ce temps à nous relater le voyage du pape Benoît XVI. Merci infiniment. Bon, j'espère que nous vous recevrons une autre fois.